France Inter, le 18-20.
Le coup passa si près que le chapeau tomba. Il n'a pas voulu prendre le risque d'une police trop en colère et trop malheureuse aussi. Christophe Castaner, les négociations sont allées finalement extrêmement vite. Des augmentations promises aussi. Alors, c'est pas fini et d'ailleurs on le verra. Mais le risque d'une irruption de colère grave semble écarté. Les problèmes, les problématiques demeurent. C'est quoi être flic aujourd'hui? En quoi c'est très différent peut-être de ce que vivaient leurs collègues il y a seulement 10 ans? Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce que les manifestations sont plus difficiles à contenir aujourd'hui? Objectivement, ceux qui viennent pour casser sont aussi là pour casser du flic, fermez les guillemets. Le pays est-il plus polarisé, donc aussi plus violent qu'il l'a été? Certains policiers ont aussi des comportements contestables, on l'a bien vu. Après les réactions qu'il y a eu après l'affaire de Mantes-la-Jolie, on pourra en reparler aussi si vous le souhaitez. Alors, policiers aujourd'hui, en uniforme ou sans uniforme, en civil, dans les manifs ou dans la rue, un métier difficile, incompris, mal vu, mal aimé, salué, aimé, récompensé. Vous cocherez les mentions utiles et inutiles et vous êtes les bienvenus dans le téléphone sonne.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Allez Stéphanie, c'est vous la première et soyez la bienvenue au téléphone sonne.
Oui, ben bonsoir à tous. Voilà, donc un témoignage très rapide. Moi, je n'ai pas de policier dans la famille. Je suis pas proche de cette catégorie professionnelle. Je suis médecin généraliste urgentiste dans l'Essonne. C'est un constat juste que je voulais apporter. Donc depuis une quinzaine d'années où je suis installée, ces dernières années, je vois à peu près 2 à 3 policiers par mois qui consultent, qui nécessiteraient bien souvent des arrêts de travail. Alors je parle pas pour une rhinopharyngite ou une gastro, hein, des choses un peu plus sérieuses, des lumbagos, des vraies sciatiques, hein, et des déséquilibres de diabète, sur pompe à insuline, bref, je vous passe les détails, et qui me refusent des arrêts de travail. Et ça, c'est vraiment un constat de plus en plus fréquent pour moi ces dernières années. Et systématiquement, j'ai le même retour de ces policiers. Alors, je précise, des policiers de terrain, hein, ceux qui sont en patrouille, ceux qui sont à la BAC, ceux
qui sont en uniforme.
Voilà. Vraiment, bon voilà, souvent je prends le temps de discuter, c'est souvent très fort comme témoignage. Bref, et donc ils sont dans une énorme culpabilité envers leurs collègues qui seraient rappelés sur leur temps de récupération s'ils acceptaient le moindre arrêt de travail. Et bon, encore une fois, j'insiste, c'est pas des arrêts de complaisance, hein, c'est vraiment sur des choses où même parfois ils devraient être hospitalisés, ils refusent, dernière en date, sans dévoiler quoi que ce soit, patient diabétique insulino-dépendant avec une pompe à insuline à 5 grammes de glycémie qui déséquilibrait depuis plusieurs jours, qui refusait l'hospitalisation. Et la phrase type, c'est « Mais vous vous rendez compte, là, je peux pas m'arrêter maintenant, je vous apprends rien sur l'actualité. » Voilà, et c'est quelqu'un de jeune, et bon. Et ça, c'est tous les mois.
Et Stéphanie, ouais. Est-ce que vous voyez vous diriez que ce sont des maladies comme chacun en a un moment ou un autre, ou est-ce que vous diriez que vous voyez arriver plus de maladies liées au stress aussi autour de vous et dans votre service?
J'interviens surtout dans l'urgence, donc tout ce qui va être syndrome dépressif ou post-traumatique, ça je vois moins, je dirais, mais moi je vois parfois dans le cabinet arriver des policiers ou policières qui marchent à angle droit, hein, à 90 degrés, je les vois à 19h, 20h, je leur propose un arrêt de travail, ils disent non, je fais la nuit, là j'enchaîne, hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du courant.
Merci pour votre témoignage et cette entrée en matière, Stéphanie. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, non, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, mais pour continuer à discuter sur cette lancée avec nous ce soir au téléphone sonne, Fabien Jobard est là, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche en sciences politiques au CNRS. Nous avons autour de la table aussi Marie, vous êtes policière, police secours, porte-parole de l'association Mobilisation des policiers en colère. Votre collègue Nicolas, pareil, policier en civil, porte-parole de l'association Mobilisation des policiers en colère aussi. Et puis Emmanuel Leclerc, journaliste enquête et justice ici à France Inter. Et bonsoir, bonsoir à tous. Je vais commencer avec vous, Fabien Jobard, sur ce que dit notre amie Stéphanie, qui est médecin, qui voit passer de plus en plus de gens fatigués, qui pourraient mériter d'être arrêtés et qui, au fond, ne le sont pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un symptôme assez courant, finalement?
Ah bah oui, c'est un symptôme courant dans tous les corps, qu'ils soient militaires ou civils, qui reposent sur une exigence de solidarité. Et en réalité, c'est aussi, ça fait la force de ce corps, et puis ça fait aussi sa faiblesse. Par exemple, lorsque des policiers refusent ou craignent de se tourner vers le psychologue pour leur faire part de leur état dépressif, pour leur faire part de leurs inquiétudes, leurs traumatismes. Et en bout de course, c'est bien sûr corrélé avec les suicides policiers qui défraient l'actualité. Donc, si vous voulez, l'esprit de corps, là, on vient exactement d'avoir les deux faces de ce qu'est l'esprit de corps, c'est-à-dire forte solidarité et en même temps risque de ne pas voir, de ne pas exposer les situations les plus difficiles au sein de l'institution.
Marie, vous vous reconnaissez, vous, par exemple, dans le portrait de certains de vos collègues qu'a pu faire Stéphanie à l'instant ?
Totalement. Totalement. Nous, dans nos têtes, il est hors de question de se mettre en arrêt de complaisance, comme elle a pu le dire, ou tout simplement juste parce qu'on a un petit peu mal au dos, parce que pour nous, on va toujours minimiser la douleur. Moi, personnellement, j'ai bitumé pendant des mois suite au à Charlie Hebdo, suite
bitumé,
au bâton.
Bitumé, comme vous dites,
ouais, bitumé,
jargon,
ouais.
Ça veut dire arpenter le bitume.
Ouais. Non, c'est faire du statique.
Ah, c'est du statique, c'est vous voyez, je croyais qu'on arpentait quand on bitumait. Bah,
c'est
oui.
Garder des bâtiments, garder des portes, garder des institutions, garder des personnalités qui peuvent être mises en danger suite aux attentats qu'il y a pu avoir chez Charlie Hebdo ou le Bataclan. Autant vous dire que mon ostéo, j'allais le voir toutes les semaines, qui me disait « faut que tu te mettes en arrêt ». Et pour moi, il était hors de question, parce que si je me mettais en arrêt, ça veut dire que des collègues qui étaient en vacances au prévisionnel sur des congés annuels allaient être rappelés pour faire mon travail.
Et quand on bitume, comme vous dites, est-ce qu'on a l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose, qu'on pourrait être plus utile ailleurs, ou est-ce qu'au contraire, bitumer, parce qu'on a beaucoup entendu aussi que chacun finalement avait l'impression d'être assigné à des tâches qui n'étaient pas forcément les bonnes tâches allouées, ou est-ce qu'on a le sentiment, quand on bitume, comme vous dites, de réellement remplir son rôle de policier ?
Alors pas du tout. Moi je suis en police secours, mon cœur de métier c'est protéger, servir la population, c'est les aider. C'est répondre aux appels 17. Les appels 17, c'est quand on n'a plus rien d'autre à faire, quoi. On appelle le 17 en dernier recours. Donc c'est clair que garder une porte, non, pour moi, c'était pas du tout mon cœur de métier. Et ça fait partie de nos revendications avec la MPC, l'association, c'est justement supprimer toutes ces tâches indues qui ne devraient pas être faites par les policiers de police secours.
Et vous, Nicolas, policier en civil, là, pour le coup, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'un certain nombre de tâches indues vous incombent parce qu'il y a un problème d'effectif et qu'il faut bien que chacun trouve sa place ici et là ?
Avant, j'étais en tenue, j'étais dans un service tenue où j'ai fait beaucoup, comme elle dit, de bitume. Pas forcément utile à garder des bâtiments vides. Et là, non, on se sent pas flic. On se dit, en fait, je fais vigile. J'ai rien contre les vigiles, hein, mais je suis pas rentré pour garder un bâtiment vide. Et c'est de plus en plus ça, c'est pour ça qu'on se dit, je vais pas me mettre en arrêt, parce que ça veut dire qu'il y a des collègues qui vont être appelés. Ce qui s'est passé ces derniers temps avec les gilets jaunes, on se dit, je vais pas me mettre en arrêt parce que ça va faire des effectifs en moins sur le terrain. Les collègues ont risqué leur vie sur certains moments. J'ai pas envie de laisser à l'abandon des collègues et de me dire, voilà, quand j'ai pas travaillé sur les manifestations, j'étais derrière ma télé à me dire je préférerais être sur le terrain parce que je me sentirais plus utile sur le terrain que à regarder les images, à me dire il y a les collègues qui sont en danger.
Allez, ben tiens, puisque vous parliez des gilets jaunes, en voilà un qui nous appelle et qui s'appelle Daniel. Bonsoir Daniel. Daniel, vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Ah, vous écoute Daniel, allez-y.
Eh bien, écoutez, je souhaite peut-être d'abord rendre hommage à la police pour justement l'action qu'elle mène dans la répression de la délinquance, même si les politiques ne donnent pas les véritables moyens qu'il faut. Je veux leur dire aussi que j'ai été, à l'époque où j'étais en activité, j'étais banquier, et c'est moi qui ai financé les 30 millions d'euros de gilets pare-balles qui les ont équipés. Voilà.
Donc, enfin, vous étiez banquier, c'est pas vous qui les avez achetés, j'imagine.
Non, voilà. C'est moi qui ai fait le financement.
D'accord.
Voilà. Alors, ce que je voulais dire, par contre, et ça n'est pas à l'adresse des policiers, mais à l'adresse de nos gouvernants, c'est que je suis tout à fait choqué par la rapidité avec laquelle le gouvernement a accepté une augmentation qui va aller de 120 à 150 euros pour les policiers, ce que je ne conteste pas, mais les retraités, eux, en tout cas, c'est mon cas, depuis 5 ans, j'ai pas un centime d'augmentation de ma retraite. Je viens d'avoir une augmentation de 24% et non pas de 1,7% de la CSG qui me frappe, sans compter toutes les augmentations, et demain, le prélèvement à la source en plus de tout ça. Donc, je suis choqué de cette situation.
Ah, l'aspect psychologique du prélèvement à la source. Merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage. C'est vers vous que je me tourne, Nicolas. Ça a été extrêmement vite. Alors, c'est pas fini. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de gens, et vous en êtes peut-être, policiers en colère, qui n'étaient pas tout à fait satisfaits de ce que vous aviez obtenu. Mais c'est vrai, en tout cas, que des premiers chiffres sont sortis extrêmement vite.
Alors, les chiffres sont sortis très vite. On a des syndicats, ou en tout cas trois syndicats. Mmh. C'est pas parce qu'une intersyndicale avec trois syndicats, j'appelle pas ça une intersyndicale, qui ont été à Beauvau. Ça a discuté et ils nous ont sorti des chiffres. Alors, qui peuvent paraître indécents quand on dit que ça nous convient pas. Ça, je comprends tout à fait la
population.
Augmentation
moyenne de 120 euros pour les gardiens de la paix en début de carrière entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Enfin, pour aller vite et expliquer aux gens qui nous écoutent.
70 millions d'euros par an.
Voilà, 120 à 150 euros pour les échelons plus élevés.
Je comprends que ça soit indécent, mais sincèrement, c'est pas ce qu'on demandait. Le pouvoir d'achat, d'accord. Mais dans ce cas-là, nous payer nos heures supplémentaires. Mais je préfère qu'on maintienne mon salaire comme il est et qu'on ait des vrais, qu'on améliore nos conditions de travail, l'anonymisation de la procédure, l'adaptation des cycles horaires, parce qu'on est sur des cycles horaires où on a un week-end, un samedi dimanche toutes les 6 semaines. Donc pour nos petites familles, ça impacte aussi. Et on a fait avec l'association MPC le tour des collègues de terrain pour avoir une liste de des vraies revendications et on se rend compte qu'en fait le pouvoir d'achat c'est pas la priorité. On préfère avoir du matériel qui fonctionne, pas des voitures qui sont pas à 500 000 km en train de tomber en ruine. Mmh. Savoir que la majorité des véhicules ne passent pas le contrôle technique.
Fabien Jobard, est-ce qu'on a voulu vite étouffer la colère des policiers parce que on peut pas accumuler les colères, à un moment ça commence à faire trop.
Oui, ça c'est évident. C'est évident. Là, il y a eu les policiers se sont pressés, les policiers, les syndicats qui ont été mentionnés tout à l'heure, qui sont en fait les trois syndicats dits représentatifs dans la police nationale. En fait, ils se partagent les sièges disponibles de représentants des gardiens de la paix, officiers, commissaires. Bon. Et ces syndicats, au niveau gardien de la paix, se sont en effet dépêchés, sitôt les premières manifestations, les dernières manifestations des Gilets jaunes, pour demander un certain nombre de choses. Comme l'avaient fait avant eux, les policiers en colère en 2016, un protocole carrière-rémunération a été renégocié quelques mois après les manifestations des policiers, vous vous en souvenez, hein, après l'agression de trois policiers au cocktail Molotov dans une banlieue sud de Paris. Cette renégociation janvier 2017 est très récente et elle avait déjà à l'époque été massive. Mmh. Au regard des négociations au sein de la fonction publique. Et on se souvient aussi, bien sûr, des grandes mobilisations et policières et gendarmes en 2001, lorsque les policiers et les gendarmes à l'époque avaient manifesté contre tout un ensemble de choses. Deux de leurs collègues s'étaient fait tuer par un cambrioleur. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, avait accordé ce qu'on avait appelé le milliard Vaillant, c'est-à-dire 1 milliard de francs de revalorisation et salariale et indemnitaire.
Mais ça veut dire que ça fait peur au pouvoir, une colère policière, en fait.
Bien sûr, ça fait peur, vous savez, parce que la 4e République, en 1958, est en grande partie tombée sur une mobilisation policière. Lorsque des policiers, à l'appel déjà du SGP, syndicat des gardiens de la paix, qui revendiquaient d'ailleurs déjà sur les conditions de leur rémunération, une partie de cette manifestation-là a décidé d'aller prendre la Chambre des députés. Mmh. Et à partir de ce moment-là...
Vous êtes en train de donner des idées, nos deux policiers.
Et à partir de ce moment-là, il était évident pour tous que le régime n'était plus sauvable. Mmh. Et la solution de Gaulle s'est alors imposée, c'est-à-dire à l'époque, aller chercher un militaire qui a fait voter une constitution, mais on est allé chercher d'abord un militaire.
Mais là, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la frayeur, c'était que on puisse mettre un gilet jaune sur des uniformes bleus, au fond, d'une certaine façon.
Oui, mais des gilets jaunes ont été mis sur les gyrophares bleus, c'est évident, et viennent derrière les officiers et les commissaires, et viendront peut-être aussi derrière les gendarmes. Et derrière aussi les pompiers. Et derrière, bien sûr, tout un ensemble de corps de la fonction publique, tels que les infirmières, les enseignants, qui, eux aussi, exercent des métiers difficiles pour des rémunérations généralement moindres que celles des policiers.
Et Marie Bianquetant, de l'autre côté de la barrière, effectivement, dans l'histoire des gilets jaunes, évidemment, mais est-ce que vous entendez l'idée que, effectivement, oui, il y avait un petit côté gilet jaune sur uniforme bleu, au fond, dans le ras-le-bol exprimé par les policiers?
Ah, mais depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, en tout cas avec l'association, on a toujours soutenu leur mouvement. On soutient le fond, mais pas forcément la forme que ça a pu prendre, évidemment. Je pense que tout policier est Gilet jaune dans le cœur. Hein. Après, L'humain est pour les gilets jaunes, le policier forcément il garde l'uniforme et il fait ses tâches et il protège les institutions, les valeurs de la République. C'est ce pour quoi on s'est engagé, ce pour quoi on a signé. Donc à l'appel des gilets jaunes, quand on nous a demandé de les rejoindre, de baisser les boucliers, d'enlever les casques, c'est pas l'envie qui manquait, hein.
Sauf qu'on est... À ce moment-là, sérieusement.
Ah non, je vous assure, l'envie ne manque pas dans nos rangs. C'est juste qu'on est tiraillé entre deux choses, entre notre côté citoyen, qui en manque de pouvoir d'achat, qui en manque de reconnaissance, qui se sentent dévalorisés, et de l'autre côté, notre engagement pour la République et pour notre pays. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que ça passe au-dessus de tout. Moi, quand j'ai signé, mon engagement, il passera au-dessus de tout, quoi qu'il arrive. Je ne réponds pas, je ne protège pas un président de la République en particulier ou un gouvernement en particulier, moi je protège mon pays.
Emmanuel Leclerc, pour ajouter quelque chose.
Oui, ce qu'on a oublié, c'est que ce qui avait beaucoup marqué aussi au départ des conflits chez les policiers, c'est ces jeunes policiers qui dormaient dans leur voiture. Et ça, c'est pas possible. En région parisienne ou dans certaines grandes villes, où quand vous avez 2000 euros et que vous êtes seul ou avec une petite famille où madame ne travaille pas, c'est devenu quasiment impossible, effectivement, de loger à proximité de votre lieu de travail. Donc, quand vous faites une heure de trajet tous les jours et que vous ne pouvez pas vous loger très près de là où vous travaillez, ça devient difficile, au-delà de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon également en octobre 2016. Et l'autre point, effectivement, c'est de partir en patrouille en se disant qu'on va être en sous-nombre, mal équipé, face à des bandes de cités, des trafiquants qui, eux, en revanche, ont acquis des moyens bien supérieurs à ce qu'il pouvait y avoir encore il y a une dizaine d'années. On en parlait encore il y a 2-3 mois avec l'arrivée des trafics de cocaïne en masse, on va dire.
Je voudrais qu'on retourne au standard. Écoutez, Robert. Bonsoir, Robert.
Oui, bonsoir, messieurs, dames. Oui, que la vie de policier et qu'ils doivent être bien rémunérés et tout ça, bon, et parfois épuisés, oui, bon, tout ça, on peut comprendre. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est avec la situation sociale que l'on connaît actuellement, le chômage, par exemple, il doit y avoir beaucoup de postulants en raison du, bon, si vous voulez, en raison du statut social que ça présente et matériel. Hein, bon, ça, c'est tout à fait humain. Le recrutement ne peut-il pas quelquefois être défaillant et que certaines recrues, malgré une formation solide, hein, ça on peut le comprendre, s'avèrent psychologiquement inadaptées à ce dur métier quand même face à des situations difficiles, voire
vous faites allusion à quelque chose de particulier, vu, Robert, ou pas? Est-ce que vous faites allusion à ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, par exemple,
quand même, autant en même dire. Temps, maîtriser son comportement à toute épreuve, si vous voulez, ou des situations, bien sûr, c'est souvent des situations d'ailleurs inopinées. Tout cela pour la sécurité de tous les citoyens, que l'on soit, si vous voulez, policier ou simple citoyen. Enfin, simple citoyen, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, bref. Il peut y avoir aussi, malgré tout et malheureusement, des personnes dans ce type de métier difficile, des personnes qui peut-être veulent assouvir, si vous voulez, certaines pulsions, c'est peut-être difficile à dire comme ça, mais malheureusement, certains comportements peuvent s'avérer comme ceci.
On a bien compris qu'il y avait certains comportements qui vous choquaient, Robert. Un mot, Fabien Jobard, sur la formation, effectivement. On le sait, on y viendra d'ailleurs avec les policiers, le comportement des gens a peut-être changé, le comportement en manifestation a peut-être changé. Est-ce que le recrutement, lui aussi, a changé? Est-ce que on est mieux formé aujourd'hui? Est-ce qu'on est formé très différemment pour être policier aujourd'hui?
En fait, le recrutement policier, c'est-à-dire la composition sociologique de ceux qui se présentent au concours et de ceux qui sont admis, change très peu depuis des décennies. Et ça, c'est un trait marquant de la police et c'est sans doute d'ailleurs...
Et c'est un souci
Bien sûr, c'est un souci. Par exemple, François Hollande a annoncé une vague de recrutement dans la police pour muscler l'institution dans sa lutte contre le terrorisme. Je m'attendais à ce moment-là qu'on recrute des gens qui sont aptes à comprendre tout un ensemble de mécanismes liés au terrorisme, à analyser les comportements criminels liés au terrorisme, à pénétrer des réseaux, etc. Non, en fait, on a recruté des gardiens de la paix comme on en a toujours recruté. On les a même d'ailleurs formés plus rapidement qu'avant parce qu'il fallait les mettre plus rapidement sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh ben, on les a envoyés garder effectivement bitumés. Et ça, je pense que c'est le propre d'une institution qui a énormément de mal à s'adapter à ce qui change autour d'elle.
Est-ce que Nicolas, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fabien Jobard? On est formé finalement comme votre père aurait pu l'être s'il était policier aussi. Je ne sais pas s'il l'était d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas préparé jamais sur le terrain, ce qui peut-être aussi amène à avoir un certain nombre de comportements comme celui que dénonçait notre auditeur à l'instant?
Alors moi, je suis externe, j'étais pas ADS avant, donc je suis vraiment rentré à la formation sans rien connaître de la police en fait. Mmh. Et ce à quoi on n'est pas préparé, c'est la violence des gens en face. Parce que quand on est formé en école, quand on va apprendre à menotter, c'est...
Le gars bouge pas.
Ben le gars bouge pas, ou alors on résiste un peu, mais entre nous pour jouer. Mais c'est jamais comme ce qu'on a en face. Mmh. On n'est jamais préparé à ce qu'on a en face. Et on est encore moins préparé aux attentats ou à tout ce qui peut nous tomber dessus. Et ça, c'est des choses... la violence des manifestations, on n'est jamais préparé. On a une semaine de formation violence urbaine, où c'est une formation basique.
Et on vous apprend quoi, en fait, dans ce genre de formation?
On nous apprend à marcher en ligne avec le bouclier, à envoyer des grenades, et puis voilà. On nous apprend pas qu'en face, ils vont répliquer avec des pavés qui font 2 kilos. On nous apprend pas qu'en face, ils ont des cocktails Molotov. On nous apprend du basique, et après, on nous lâche sur le terrain, et c'est... faut se débrouiller avec ça.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir aussi des dérives de votre côté? L'allusion à laquelle faisait allusion, enfin, l'allusion de notre auditeur, c'était la fameuse scène à Mantes-la-Jolie avec les lycéens à genoux avec les mains derrière la tête. Est-ce que c'est aussi, au fond, une réaction qui dit « je sais pas comment les prendre, moi, ces gens en fait qui sont en train de me balancer des pavés, donc voilà moi ce que j'essaye de faire, en fait ». Est-ce que c'est aussi ça, cette réaction-là?
Alors, Mantes-la-Jolie, il y a rien qui est gênant, en fait, parce que il y a 150 personnes en face, on n'a pas 150 paires de menottes. Le meilleur moyen, c'est de les mettre à genoux, parce que pour se relever, c'est plus compliqué, les mains sur la tête, comme ça, on a les mains à vue. Mmh. La seule chose qui peut porter préjudice, c'est le fait que ça a été filmé.
Ouais, enfin, alors, filmé à l'intérieur, et le fait que, au bout du compte, il n'y a pas 150 gamins, parce que c'était des gamins qui se retrouvent ensuite en garde à vue. Donc, pour la plupart, en fait, au fond, ils n'avaient rien fait, mais ils sont quand même 150 à être à genoux par terre avec les mains derrière la tête.
Mais.
Ça donne une image désastreuse de la police. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais au moment de où ces images ont circulé, moi j'étais en Allemagne, je les avais pas vues. Tout le monde est venu me voir avec des yeux écarquillés en me demandant ce qui pouvait bien se passer dans la police française. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? 150, ou il devait quand même pas être 150, en tout cas quelques dizaines de gamins, effectivement, à genoux, les mains sur la tête, pendant plusieurs minutes, et le tout filmé et diffusé. C'est quelque chose qui réveille des souvenirs dans tout un ensemble de pays qui sont pas à la mesure, à l'image d'une police, ni même d'un pays démocratique.
Et on en parle, ça, Marie, ou pas? Après, quand on entend la réaction, la caisse de résonance immense que cette histoire a été, est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous vous dites, ouais, moi, effectivement, je l'aurais pas fait? Ou alors, l'inverse, moi, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Est-ce qu'ensuite, il y a cette espèce de retour, y compris entre vous, en fait, pas seulement avec la hiérarchie, mais entre vous, qu'est-ce que tu fais, toi, face à une situation pareille?
Alors, faut savoir que le gardien de la paix de base, il débat énormément avec ses collègues de patrouille. On est 8 heures ensemble dans la même bagnole, donc évidemment qu'on parle des faits d'actualité, évidemment qu'on parle des vidéos anti-flics, évidemment qu'on a parlé de la vidéo de Mantes-la-Jolie. Et ce qui en ressort, c'est que l'erreur, la grosse erreur qui a été faite par le collègue, ça a été de la filmer et de diffuser. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur, et c'est là où il manque à son devoir et son discernement.
L'erreur, ensuite, c'est qu'on l'envoie, Marie, c'est pas seulement que ça existe, en fait, selon vous.
En fait, moi, je vais vous expliquer clairement, parce que j'ai des collègues qui étaient sur cette intervention. Ils étaient en sous-effectif, ils étaient 30 face à environ une centaine de lycéens. Ils ont trouvé ce groupe qui prenait la fuite suite à des exactions qui avaient été faites dans Mantes-la-Jolie. Un groupe qui prend la fuite à la vue de la police. Ils ont décidé d'immobiliser ce groupe. Ils étaient en sous-effectif, donc pas assez de menottes, pas assez de serflex comme on peut avoir sur les maintiens de l'ordre. Ils les ont mis à genoux et les mains sur la tête pour éviter qu'ils ne prennent la fuite. Parce que quand on est à genoux, pour prendre la fuite, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec les mains apparentes, pour éviter qu'ils prennent des objets ou des armes par destination qui puissent se trouver dans leur poche, dans leur pantalon, cachés dans leurs sous-vêtements ou dans leurs chaussettes. C'est tout simplement
pour les planter au moment du passage des policiers, c'est ça qui était un peu incompréhensible quand même.
Le problème, c'est que les policiers étaient en sous-effectif et ils attendaient des renforts. Et c'est dans l'attente des renforts que les lycéens ont été mis dans cette position. Ensuite, vous parliez du fait que la totalité n'a pas été placée en garde à vue. Ça prouve justement le discernement des collègues. S'ils avaient voulu faire une rafle comme ça a pu être dit, les 150 auraient été placés en garde à vue et il n'y aurait pas eu de discernement, il n'y aurait pas eu de différence de fait. Là, c'était aussi pour avoir le temps de revisionner les caméras de vidéosurveillance de la ville pour voir qui avait fait quoi. C'était aussi pour avoir le témoignage des citoyens et des commerçants qui étaient sur place pour dire c'était un tel qui était habillé comme ça, c'était un tel qui portait ça. C'est ce à quoi a servi ce laps de temps. Après, les collègues ont fait une grosse erreur, c'était de filmer et de diffuser.
Et vous savez pourquoi d'ailleurs ? Vous savez ce qui s'est passé ? On a discuté après, parce qu'il n'y a pas seulement il y a le film effectivement, puis il y a les commentaires qui vont derrière. Est-ce que ça aussi...
Mais moi, policière, je condamne ce genre d'actes et ce genre de commentaires, parce que tout simplement, ça discrédite toute la profession. Et c'est ça le problème aussi en France, c'est qu'un policier fait quelque chose de mal, c'est toute la police.
Alors c'est pareil de toutes les professions, mais peut-être particulièrement effectivement dans la vôtre. En tout cas, ça a des implications qui peuvent être plus importantes. On va rester autour de ce thème-là avec le coup de fil de Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Allez-y Stéphane.
Donc je suis de Toulouse et j'ai déposé bon nombre de manifestations comme militant syndical auprès de la préfecture. Et on assiste en gros depuis Sivens, le décès de Rémi Fraisse et les manifestations qu'on suivit, un changement... De la manière d'aborder le maintien de l'ordre en manifestation, avec un dispositif extrêmement agressif, avec des policiers cagoulés, très proches des manifestations. Et je pense que c'est un des éléments qui entraîne des violences. C'est une manière de faire qui ne peut qu'entraîner un certain nombre de gens à se sentir agressés, et tout ça est lié à des consignes des préfectures qui ont changé leur manière d'appréhender les choses et qui produisent pour les policiers, que je respecte par ailleurs, des conditions de travail qui se dégradent. C'est un des éléments. Mmh. Et la dernière chose, c'est que je suis extrêmement choqué par ce que vient juste de dire madame sur le fait de faire mettre à genoux des jeunes avec les mains derrière la tête. Je peux vous garantir qu'à moi, vous ne me ferez pas mettre à genoux les bains derrière la tête, madame.
Alors, il y a aussi le fait que les gens étaient mineurs, effectivement, qui a forcément été un facteur extrêmement important dans cet épisode-là. Sur ce que dit Stéphane, Nicolas, par exemple, est-ce qu'il y a des consignes aujourd'hui qui disent « allez-y plus fort parce qu'il faut que ces manifestations soient réellement résorbées et qu'elles le soient vite ou pas ?» Stéphane citait quelques exemples, mais la technique de la NAS, les grenades lacrymogènes, etc. Est-ce que les canons à eau, est-ce qu'on utilise plus souvent ces méthodes-là aujourd'hui parce qu'il y a plus de casseurs peut-être et qu'il faut réprimer ces manifestations plus vite ou pas ?
Mais parce qu'on n'a pas affaire à la même population en face. Il y a 10 ans, on n'avait pas de Black Bloc. Il y a 10 ans, les 1er mai, comme ça s'est passé cette année, en 2018, c'était pas les mêmes. On n'est pas sur la même personne en face. J'ai eu à prendre des cocktails Molotov qui me passent au-dessus de la tête. J'ai des marteaux qui arrivent à mes pieds. Effectivement, on se dit que, c'est même pas des consignes, c'est juste qu'on est là pour maintenir l'ordre et pour nous protéger nous. Donc oui, on utilise des grenades lacrymogènes. Oui, on utilise des grenades de désencerclement parce que c'est les moyens qu'on a. Mais nous, en face, on n'a pas d'armes létales. Ils ont des cocktails Molotov. Le cocktail Molotov est une arme de guerre.
Fabien Jobard, sur la différence de consignes et de méthodes aussi qu'il peut y avoir, notamment dans la résorption des grosses manifestations qui tournent mal.
Alors les consignes, je les connais pas. En revanche, le matériel, on observe effectivement une évolution notable. Les équipements en maintien de l'ordre individuels sont beaucoup plus offensifs et beaucoup plus dangereux qu'ils l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Je vais vous citer un exemple. Pour prendre des manifestations très violentes, qui étaient les manifestations étudiantes et lycéennes de novembre-décembre 86, notamment en marge, d'une certaine manière, de cette manifestation-là, Malik Osekin avait été tué. C'était des manifestations très brutales, vous pouvez regarder les images. À l'époque, un tir tendu avait été commis, donc un tir de grenade lacrymogène, avait été commis contre un étudiant qui avait perdu un œil. Ça avait suscité des mois et des mois d'émois et de débats. La réunion d'une commission parlementaire, 2 volumes de rapports parlementaires sur le maintien de l'ordre, bref. Aujourd'hui, ce qu'on a vu lors des 2 derniers week-ends de maintien de l'ordre, ce sont des policiers hors formation, hors unité constituée, qui sont équipés à titre individuel de flashball et de lanceurs de balles de défense.
Si je peux corriger quelque chose, le flashball n'est plus autorisé dans les manifestations à Paris.
Formidable. Alors, lanceurs de balles de défense, c'est-à-dire des balles dont le diamètre est inférieur à l'orbite de l'œil, et donc si ça rentre dans l'œil, ça l'éclate. On a une trentaine de personnes énucléées depuis la fin des années 90, avec flashball, puis LBD. Ces équipements-là sont des équipements extrêmement dangereux qui entraînent des mutilations, des blessures irréversibles, et qui ne sont pas, à mon avis, explicables simplement parce que la violence aurait augmenté en manifestation. Attention, si vous entretenez avec des anciens, c'est-à-dire ceux qui sont plus dans la police aujourd'hui, et qui vous parlent des autonomes qui infiltraient les manifestations de sidérurgistes dans les années 70, comme moi j'ai pu le faire en menant des entretiens dans les années 90, vous verrez la violence qui était à l'époque employée. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est habitué en France à ce que, au cours de manifestations, des policiers puissent mutiler des manifestants. Et ça n'est pas concevable. Ça entraîne une dynamique d'escalade des deux côtés. On ne sait pas où elle s'arrêtera, cette dynamique.
Une réaction, Marie, je vous voyais réagir. Alors effectivement, on a entendu ce que vous disiez sur les flashballs.
Oui, il est important de le préciser. Mmh, mmh. Le flashball est interdit à Paris depuis quelques années. Parce que justement, il avait un manque de précision en termes de tir. Donc maintenant, on est au lanceur de balles de défense 40.
Mais est-ce qu'on sait, on est formé, pardon de le dire comme ça, est-ce qu'on vise dans ces cas-là? Est-ce qu'on sait,
évidemment,
et on sait faire,
alors déjà,
et
pour
on sait viser.
Pour être porteur d'un lanceur de balles de défense, il faut une habilitation.
Mmh. Ok.
Ok, donc si on n'est pas habilité, on n'a pas le droit de le porter, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc tous les collègues que vous voyez sur les vidéos en civil, etc., qui sont porteurs de LBD, ils sont habilités. Mmh. Ils ont suivi une formation.
Mais on apprend à se servir de ce genre
d'arme. On apprend à viser. Tout à fait.
Okay.
Après, c'est une arme qui a une portée de 5 à 7 mètres pour qu'elle soit effective, pour qu'elle soit parfaite. Au-delà, la visée n'est plus effective et parfaite. Donc, c'est-à-dire que si le manifestant bouge entre les 5 à 7 mètres, évidemment, le point de visée n'est plus le même que lorsque le collègue a appuyé sur la détente. Non, mais je tiens à le préciser quand même. C'est pas des manifestants qui sont fixes. Voilà. Donc forcément, quand on vise par exemple au niveau du torse, si le manifestant s'approche au moment où on appuie sur la détente, bah forcément ça peut arriver au niveau du visage. Et ce n'est pas un tir voulu, ce n'est pas le point visé voulu.
Absolument, c'est l'arme qui est défaillante. Sans même que le policier qui tire, c'est-à-dire le tireur, soit en cause, à mon avis, c'est l'arme qui est défaillante dans un cadre de maintien d'ordre.
Une arme disproportionnée. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas, est-ce que ça arrive quand on est en manif, de se dire j'ai peur de faire du mal à quelqu'un? Sérieusement. Je tire parce que j'ai ça à ma disposition, mais j'ai la trouille que ça se passe mal. Notre auditeur tout à l'heure parlait de Sivens. Est-ce qu'on va dans les manifestations avec aussi cet état d'esprit-là en se disant j'ai peur qu'il se passe quelque chose et que, même sans le vouloir, comme nous l'expliquait Marie à l'instant, quelqu'un soit blessé très grièvement, voire pire?
Ah mais évidemment, quand on va sur les manifestations, c'est dans le but de maintenir l'ordre, mais en aucun cas de blesser ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas habilité à LBD, mais même quand on lance des grenades, on se dit le seul truc qu'on veut, c'est qu'il y ait pas quelqu'un qui la ramasse ou quoi que ce soit, comme ça a pu se produire. Ce qu'on veut, c'est maintenir l'ordre, et je préfère les manifestations où tout se passe bien, où on n'a même pas besoin d'être casqué, comme j'ai pu en faire à plusieurs reprises, où on est en tenue normale et on n'a pas le casque sur la tête.
Est-ce que c'est vrai que quand on voit un policier mettre son casque sur la tête, c'est à ce moment-là que il vaut mieux se coller contre les maisons et surtout ne pas s'approcher du milieu de la rue?
Il faut savoir que lorsqu'on met un casque ou qu'on lève le bouclier, c'est sur ordre. On le décide pas nous. Et pareil quand on l'enlève, c'est sur ordre. Il est important de le souligner parce qu'on a vu plusieurs vidéos, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, qui disaient « Regardez vos collègues, ils ont retiré les casques et tout ça ». Non, ils ont eu l'ordre de les retirer parce que la manifestation se passait bien.
Allez, Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Et moi, je vais pas parler?
Ah ben, attendez, Iban, si vous voulez, mais Louis d'abord, chacun son tour. Allez-y.
Bonsoir. Bon, allez-y. Alors, je remercie d'abord tous les policiers pour l'engagement qu'ils ont, et notamment parce que mon fils est policier. Il a choisi cette carrière-là. 35 ans, il a, et j'ai peur tous les jours pour lui. Non pas pour les manifestations, non, mais pour les élèves qui sont dans la rue, dans les quartiers nord, par exemple de Marseille, où il y a un clientélisme monstrueux, où on laisse faire tout le jour, tous les trafics, sous les yeux. D'ailleurs, même quand il y a les CRS, les trafics continuent. C'est encore mieux parce qu'ils sont sous bonne garde, et comme ça se passe à Marseille. Enfin, et je parlerai aussi du manque de formation des policiers au niveau des maniements d'armes, au niveau d'entraînement. Ils sont actuellement, avec les manifestations des Gilets jaunes, tout ça, ils sont effectivement sous pression. Ils ont très très peu de jours de repos. Et comme disait ce jeune homme là que j'ai bien aimé, sorti de l'école, il garde le bitume. Oui, effectivement, ils vont se promener pendant les... là, il n'y a pas de manifestation en semaine. Ils vont se promener dans les grandes surfaces. C'est pas ça le rôle de la police.
Voilà. Merci pour votre témoignage, Louis. Et puisqu'on touche à la fin de l'émission, je voudrais qu'on écoute Iban, qui voulait absolument parler. Iban, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Eh bien, j'ai appelé pour expliquer la difficulté qu'on peut avoir en tant que parent pendant ce mouvement. À expliquer la nécessité d'une police juste, etc. Moi, j'ai du mal à expliquer le respect qu'on doit à la police, à mes enfants, car ils ont vu les images à la télévision de personnes pacifistes se faisant charger dessus, quand ils ont vu des personnes les bras ouverts se faire tirer dessus, se faire, comme à Biarritz hier, une jeune demoiselle de l'école d'art se faire défoncer la bouche avec un tir de je ne sais quoi, et cette demoiselle ne représentait aucun danger, il faisait beau. Et là, il y a un policier qui, tout à coup, a décidé de la détruire, cette jeune demoiselle de 20 ans. Et moi, que dois-je dire à mon enfant pour lui dire « Non, mais ne t'inquiète pas, tu dois respecter la police, ils ont le privilège de
la... » Est-ce que vous lui dites quand même ou pas? Qu'est-ce que vous lui dites, Iban?
Eh ben, là, non, je ne sais plus quoi lui dire. Je vous appelle, il écoute la radio, on est là tous ensemble, et j'attends peut-être les paroles des policiers qui sont sur le terrain, qui me donnent envie de les respecter.
Et merci beaucoup, Iban. Pardonnez-moi, mais comme il est 58 et qu'il nous reste qu'une minute, je voudrais que les policiers qui sont là aient le temps de vous répondre. Et moi, je trouve ça intéressant, ces deux appels l'un devant l'autre, en fait. Marie, il y a Louis, dont le fils est policier, qui a peur tous les jours. Il y a Iban, dont les enfants probablement peuvent aller dans des manifestations et qui ont peur aussi. Il doit y avoir quelque chose qui marche pas, cependant, pour que d'un côté comme de l'autre, on ait peur l'un de l'autre, en fait.
Ce qui marche pas, c'est le dialogue qui a été rompu entre la population et la police, la suppression de la police de proximité. Tout ça a fait que il y a une barrière qui est, on a la sensation qu'elle est immuable entre la police et la population. Nous, avec l'association, on se bat justement pour réinstaurer ce dialogue avec notre page qui est publique, qui accueille des citoyens, avec qui on échange en message privé, avec qui on prend le temps de parler. Et comme là ce soir, on prend le temps de venir sur des médias pour pouvoir échanger avec la population. Et moi, ce que je veux dire à ces deux papas. C'est que moi, mes parents ont peur aussi, évidemment, et j'essaie de la rassurer comme je peux, et ils respectent ma vocation. Et à Iban, je l'invite à amener ses enfants à un commissariat pour discuter avec les policiers directement. Je pense que c'est la meilleure des solutions.
Eh ben, Iban, j'espère que vous suivrez le conseil de Marie. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous de votre présence dans le téléphone sonne. Merci à tous aussi pour vos nombreux appels, comme d'habitude, et portez-vous bien.